L'essentiel sur l'humain et ses limites. Question 21. Utopie, dystopie, où va le monde? L'inquiétude face au progrès de la civilisation n'est pas nouvelle, mais elle a pris une dimension accrue au XXe siècle. Les hommes épuisent les ressources naturelles et, par l'invention de techniques comme celles qui font usage de l'énergie nucléaire, font courir un risque nouveau à l'ensemble de l'humanité, celui de sa propre disparition. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 hante toujours les consciences. La littérature s'est emparée de cette inquiétude à travers la dystopie, qui rend visible et sensible les dangers encourus par l'humanité. Elle crée des mondes, certes imaginaires, mais possibles, en déployant dans l'avenir les potentialités du présent. Ainsi, Volodin imagine-t-il l'existence de survivants à une catastrophe nucléaire. Par ses expériences de pensée, il s'agit d'amener l'homme à réfléchir à ses actions et à ses responsabilités au présent, non plus penser en termes défaitistes ou fatalistes, mais se réapproprier un avenir dont il doit rester maître. Question 22. Jusqu'où s'étendent les pouvoirs de la technique? La technique est la manifestation de la puissance de l'homme sur la nature. Son intelligence, dans sa manifestation originelle, est en effet fabricatrice, comme le montre Bergson, et elle a permis aux hommes d'atteindre l'idéal posé par Descartes dans son discours de la méthode, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Au XXe siècle, la nature se trouve ainsi provoquée et domestiquée toujours plus largement. Le développement technique nous met face à de nouvelles difficultés, telles que la surexploitation des ressources naturelles et les urgences climatiques notamment. Cet essor n'est-il donc pas en train d'échapper aux êtres humains, qui auraient joué les apprentis sorciers et seraient dépassés aujourd'hui par leur création? La question se pose alors de savoir si la technique n'a servi pas l'homme, ou ne tend pas à se substituer à lui. Quelles ressources propres à l'homme pourraient lui permettre de se réapproprier sa puissance technique? Limiter le pouvoir de cette dernière se présente comme un défi. Hans Jonas, en appelant à une responsabilité collective, a ouvert la voie à la fin du XXe siècle à une réflexion politique des plus urgentes. Question 23. Corps souffrant, corps réparé, corps augmenté. Les progrès techniques ont profondément modifié les rapports de l'homme à son environnement, mais aussi créé de nouvelles possibilités d'intervention sur l'homme lui-même, en agissant sur son corps. Le corps malade ou mutilé, souffrant, objet des traditionnels soins de la médecine, est désormais aussi un corps possiblement transplanté et greffé. Si aujourd'hui, greffes et dons d'organes sont courants et apparaissent comme une victoire sur la mort en permettant de réparer les vivants, selon le titre du roman de Maëlys de Kerangal, jusqu'où l'homme doit-il aller? La bioéthique est indispensable pour penser les limites de l'intervention médicale et sauvegarder la dignité de la personne. Mais outre le corps, objet du soin, le corps est aussi sujet, expérimentant la souffrance physique à laquelle s'ajoute la souffrance psychique. Le traumatisme d'une maladie ou d'une mutilation est alors une lutte pour la vie qui échappe en partie à l'investigation médicale. Question 24. La finitude est-elle constitutive de l'humanité? Nous ne sommes pas omniscients. En un geste inaugural de la modernité, Kant institue un tribunal de la raison qui définit les limites de ce que nous pouvons connaître. Mais ces limites sont-elles établies a priori, comme le pense Kant? Foucault soutient qu'elles sont relatives à une épistémée, à un ensemble de concepts et d'instruments historiquement constitués. Nous ne sommes pas non plus omnipotents. Cependant, remarque Arendt, nos actions ont des conséquences infinies. La finitude pourrait bien n'être que la manière dont s'accomplit notre liberté. Sartre explique en effet que nous nous faisons finis en choisissant parmi des options possibles. Se faire fini, c'est vivre sa vie. Plutôt que de dénier les conditions de notre existence, il nous appartient de cultiver une forme d'existence supérieure au sein de l'existence humaine, ce que Nietzsche appelle le surhumain. Car l'existence finie n'est pas exclusive de toute sortie de soi. Être humain, c'est aussi inventer des relations avec les animaux, avec les mots, avec les choses, qui renouvellent notre expérience. Sans doute, cette expérience est-elle inquiète, mais peut-être l'inquiétude est-elle une condition de la pensée.